Bonjour, vous écoutez un podcast de l'Académie saison 3, proposé par le Mouvement des entreprises de France. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'academiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
Donc bienvenue à cette édition de MEDEF Academy qu'on a décidé de concentré sur la commande publique en se fixant à un sujet assez intéressant et précis, qui sont les enjeux et pratiques du sourcing. Je vais laisser la parole tout de suite à Gilles Debagneux, qui est président du comité commande publique du MEDEF et qui va vous présenter à la fois l'événement et les intervenants que nous avons pu réunir.
Oui, donc bonjour à tous. Alors ce webinaire est une idée du comité de la commande publique suite aux nouveaux codes qui sont sortis. Et on a pensé que le sourcing, qui était quand même quelque chose de très nouveau et qui permettait une communication accrue entre entreprises, maîtres d'ouvrage et acheteurs, était un moment important pour créer des partenariats et essayer de faire progresser tout le monde et d'avoir accès au marché public. Donc je remercie en tout cas François Gonnor qui a été la cheville ouvrière de ce webinaire qui a beaucoup bossé pour le préparer. Nous accueillerons aussi, et je les remercie d'avoir accepté d'être là, Laure Bédier et Raphaël Arnoux de la DAJ qui sont pas encore arrivés, mais je suis sûr qu'ils sont dans l'escalier. Alain Bénard, président de l'Association des acheteurs publics. Olivier Giannoni, secrétaire général de l'UGAP. Sandrine Jarry, sous-directrice chargée du département de la modernisation des achats au sein de la DAE au ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Et j'ai réussi, c'est pas facile. Philippe Lecante, vice-président et général manager France Public segment de Dell Technologies. Et Christophe Mérienne, délégué aux affaires juridiques de droit public au sein de la direction juridique du groupe Aegis. Alors, on devait effectivement avoir une introduction de Laure Bédier, mais elle va arriver, et de Raphaël Arnoux qui nous expliquera les pièces essentielles dont on a besoin lorsque on veut traiter des marchés publics. Voilà. Alors, en attendant, on va commencer une première table ronde sur les enjeux pour les entreprises avec Christophe Perrienne, Philippe Lecante et moi-même. Christophe, tu attaques ?
Très bien. Merci beaucoup. Donc voilà, le thème des enjeux du point de vue des entreprises me permet de vous donner déjà ce qui était l'objectif initial qu'on a perçu de cette manière, nous les entreprises, du sourcing. C'était de stimuler la concurrence. Présenter, les acheteurs ont une démarche active vis-à-vis des opérateurs économiques et leur présentent leurs projets pour susciter des offres. J'observe une évolution, c'est que pour les entreprises, l'enjeu maintenant, c'est qu'à l'occasion du sourcing, on puisse améliorer la qualité des futures pièces contractuelles. C'est-à-dire qu'on pense que c'est une phase de dialogue précieuse qui peut permettre de renforcer la qualité de ces clauses en profitant justement de l'expertise des opérateurs économiques. Je donne un exemple, juste la révision des prix. C'est mieux plutôt que d'avoir à gérer ensuite un différend en phase d'exécution parce qu'une clause n'est pas satisfaisante. C'est mieux d'anticiper, par exemple, sur ce sujet. L'intérêt, c'est de voir ce qui est faisable. Et nous, on peut rencontrer les médecins, je veux dire, ce que vous souhaitez, nous sommes désolés, le marché ne le permet pas. Je donne un exemple, c'est les assurances. Le montant des assurances qui sont requises dans un appel d'offres. On pourrait trouver d'autres exemples. Il y a le sujet des assurances, effectivement, voir ce qui est faisable, la révision des prix, je l'ai donné. Et puis, effectivement, quelquefois, on discute aussi des pénalités ou des dispositifs d'intéressement pour améliorer l'efficacité de l'exécution du marché. Voilà quels sont pour moi les enjeux donc du point de vue des entreprises du sourcing. Je passe la parole à Philippe.
Bonjour à toutes et tous. Oui, effectivement, moi je pense que cette partie sourcing est extrêmement importante. On l'a dit, pour travailler en amont sur des clauses probablement spécifiques. Bien sûr, les assurances. Il y a aussi la notion de certification pour pouvoir répondre, qui me semble extrêmement importante. Donc ça peut être une certification technique, ça peut être une certification de sécurité par exemple, et ça c'est vraiment des sujets que l'on peut balayer en amont, travailler avec les acteurs du service public pour s'assurer que lors du lancement du RFP, toutes ces clauses aient déjà été vues. Donc pour moi, cette notion de sourcing est vraiment extrêmement importante et profitable à tous pour qu'on puisse travailler sereinement sur la réponse d'un RFP et pas avoir d'inconnu lors de l'exécution du contrat.
Oui, alors quelques petits mots aussi sur le sourcing. L'intérêt est quand même de voir en amont les clients pour l'entreprise, notamment les PME, pour qu'elles puissent avoir accès aux maîtres d'ouvrage et aux acheteurs, savoir quel est leur besoin, comprendre le besoin de ces gens-là, ce qui n'est pas toujours facile. Je crois qu'il y a un échange des besoins de l'entreprise et des acheteurs est fondamental si on veut avancer. Ça permet aussi que les acheteurs connaissent l'offre locale, parce que je crois que quand même pour les PME, c'est fondamental d'avoir accès à une offre locale, de se faire connaître, de proposer leur innovation, parce que je crois que c'est aussi un des grands sujets, c'est que le sourcing permet de faire connaître les innovations aux maîtres d'ouvrage et aux acheteurs. Ça leur permet aussi de progresser, parce que quand l'acheteur va expliquer à la PME ce qu'il attend exactement, bah, peut-être que la PME va se dire, voilà comment je vais m'organiser, je pourrais peut-être voir les choses autrement. Ils vont forcément progresser. Et je crois que tout marché public, c'est quelque part un partenariat entre quelqu'un qui a un besoin et quelqu'un qui va réaliser. Et je crois que ça, c'est vraiment la clé du succès d'un partenariat, c'est de parler ensemble avant et non pas après, parce qu'après, il y a souvent des sources délicates qui sont les sources juridiques, que notamment les PME ne connaissent pas et qui les mettent en porte-à-faux. Donc je crois que vraiment, ça fait gagner du temps, de l'argent et ça fait progresser tout le monde sur ces marchés. Et ça permet l'accès au marché public pour les PME. Voilà.
Peut-être, je voudrais juste rajouter une petite chose, parce que ce que vous venez de dire est extrêmement important. Ce que je constate, c'est que on passe vraiment, grâce au sourcing, d'un mode client-fournisseur, je veux dire, à un modèle de partenariat. Et ça, c'est extrêmement important, puisqu'on peut se développer dans le temps, que l'on soit une PME, comme ça a été dit, ou un grand groupe, peu importe. Mais en tout cas, on peut travailler en amont sur ce partenariat et effectivement réfléchir peut-être aussi, en tant que potentiel fournisseur, à la façon dont on va s'organiser pour pouvoir répondre de façon efficiente au futur RFP. Et ça, c'est vraiment dans cette partie sourcing et encore une fois extrêmement important pour l'ensemble des sociétés, y compris les PME, bien entendu.
Et alors, je voudrais rajouter un dernier petit avant d'échanger plus avec vous. Ce qu'il faut aussi, c'est que les acheteurs sortent du système copier-coller de certains marchés, notamment pour les garanties dont on parlait tout à l'heure. Effectivement, adapter les garanties exigées à l'entreprise au montant du marché, à sa taille, que ce soit les assurances, les cautions, et c'est ce qu'a dit tout à l'heure Christophe, les réclamations, enfin les pénalités, c'est l'habitude de parler de réclamations, mais bon voilà, les pénalités et autres. Voilà. Et puis, dernière chose, on constate actuellement sur les marchés qui sortent que malgré le nouveau code des marchés, le nouveau CCAG, les acheteurs mettent énormément de dérogations au CCAG actuel, au dernier CCAG qui est sorti. Et franchement, ce CCAG a été travaillé avec la DAJ pendant pas mal de temps. Il équilibre beaucoup plus les relations entre les entreprises et les maîtres d'ouvrage. Et il nous paraît sincèrement important qu'il n'y ait pas autant de dérogations que ce qu'on voit actuellement sur le CCAG, le nouveau CCAG qui est sorti et qui est quand même d'un équilibre tout à fait satisfaisant.
Peut-être que c'est intéressant. Alors, on vient de voir les enjeux perçus côté entreprise avec ce besoin de cet enjeu de dialogue et de partenariat. Côté acheteur, on va commencer par Madame Jarry, mais j'imagine que c'est la même perception, mais il y a peut-être aussi des enjeux plus spécifiques à l'acheteur pour lui dans sa pratique.
Merci. Merci de votre invitation. Donc pour la direction des achats de l'État et puis pour continuer un peu le « vie ma vie » qu'ont commencé les intervenants côté entreprise, alors côté acheteur public ou à tout le moins acheteur de l'État, pour nous le sourcing c'est le besoin, le besoin, le besoin. C'est vraiment ça. C'est l'occasion de se faire challenger sur le besoin. Je pense que les collègues avec moi reviendront sur ce point-là. C'est aussi tout ce que vous avez dit côté entreprise. Il y a plein de choses que sur lesquelles je vous rejoins, notamment la question du partenariat et de, j'allais dire, de bien commencer en fait la relation. Alors peut-être qu'elle va se prolonger, on ne sait pas, puisque le sourcing c'est vraiment la phase amont. Mais côté acheteur, vraiment, si on se met dans la peau de l'acheteur, c'est je sors du bois sur mon besoin. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que les... Alors, nous, on dit les opérateurs économiques, on va dire les entreprises ce matin. Qu'est-ce qu'elles en pensent, quoi? Comment je l'ai formulé? Est-ce qu'elles comprennent, en fait? Et puis, est-ce que je m'y suis bien pris ou bien prise? Je me permets juste d'évoquer quand même le code de la commande publique qui, maintenant, depuis 7 ans, a fait entrer le sourcing comme une pratique tout à fait à la fois, je dirais, tolérée, mais aussi encouragée dans le marbre. Hein, puisque vous le savez, pour les acheteurs publics, le code de la commande publique, c'est vraiment ce qui donne le là pour nous. Et ce qui concerne donc la phase de passation qui arrivera après le sourcing. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le code? Il nous dit la chose suivante. Hein, afin de préparer la passation d'un marché, donc on prépare, on est bien en amont, l'acheteur peut effectuer, il peut, alors il nous dit pas il doit, il dit il peut, c'est déjà pas mal, il peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences. Donc j'ai bien vérifié, notre code de la commande publique, il n'évoque pas à ce moment-là, le besoin, il parle de projet d'achat, et de ses exigences. Et puis, le code nous dit, alors le résultat des études et échanges préalables, les résultats, ils peuvent être utilisés par l'acheteur, ok, donc ultérieurement dans les phases d'après, c'est ce qu'on disait sur la partie notamment montage contractuel, virgule, à condition que leur utilisation de ces résultats n'est pas pour effet de fausser la concurrence et de méconnaître les principes de la commande publique. Et c'est là qu'on voit en fait l'enjeu majeur pour l'acheteur public, c'est je sors du bois sur mon besoin, donc il y a un côté très métier, et puis là assez économique, hein. On y reviendra, mais pour nous c'est vraiment la confrontation au réel, j'allais dire, avec est-ce que il y a un opérateur économique qui va lever la main ou plusieurs, par rapport à mon projet et à ses exigences, mais, ou en tout cas, dans le cadre d'un bon exercice du métier d'acheteur public. Et pour nous, bien exercer notre métier, c'est avoir les bonnes compétences, mais l'exercer sans risque. Et c'est là que l'on retombe sur la question, effectivement, de ne pas fausser la concurrence et ne pas méconnaître l'égalité de traitement des entreprises par rapport à la commande publique, leur libre accès à la commande publique et la transparence des procédures. Alors, ces questions-là, pour nous, comme vous le savez, après je le redirai pas, nous exposerait sinon à un risque pénal comme acheteur public. Donc voilà, il faut trouver la façon d'être confortable par rapport à ces exigences de probité, d'intégrité et, j'allais dire, d'égalité de traitement. Donc je trouve que c'est bien aussi pour les entreprises d'entendre ça. Égalité de traitement, y compris pour les nouveaux arrivants sur le marché, et donc de bien faire son métier en réalisant des opérations de sourcing sur lesquelles on va pouvoir revenir, parce que tout ça, comment ça marche en vrai?
Peut-être côté UGAP pour compléter.
Eh bien, avec plaisir. Donc d'abord, je tiens à vous remercier pour être invité ce matin. Alors, peut-être 3 points par rapport aux échanges qui ont déjà eu lieu. Premier point, c'est plutôt sur qu'est-ce qu'on entend par sourcing. Alors c'est vrai que, comme vient de rappeler Sandrine, c'est lorsqu'on sort du bois, mais à l'UGAP, finalement, on a deux pratiques qui sont parallèles. La première pratique, c'est la veille commerciale, c'est-à-dire qu'on reçoit régulièrement des entreprises pour connaître l'état du marché, mais on le distingue du sourcing parce que, justement, il n'y a pas forcément un appel d'offres ou une procédure qui va être lancée suite à cette veille commerciale. Donc je dirais là, c'est l'occasion pour les entreprises de dire « Coucou, je suis là, j'ai des produits intéressants » et nous, on réfléchit, mais sans forcément faire de procédure. Et d'un point de vue juridique, la différence avec le sourcing, c'est qu'on va pas forcément prendre en compte les contraintes juridiques qui sont liées au principe d'égalité ou au principe d'impartialité. Alors que dans le sourcing, forcément, compte tenu des risques qui ont été évoqués par Sandrine, il y a la nécessité de tracer les échanges et d'avoir un accès qui soit égal à toutes et documents et toutes les informations qui sont données par un pouvoir adjudicateur. Deuxième point que je souhaitais aborder avec vous, c'était finalement pourquoi faire un sourcing pour un acheteur public. Alors, on a déjà eu quelques réponses. Effectivement, il y a la question des clauses contractuelles où je partage totalement ce qui a été dit, c'est-à-dire la nécessité d'avoir des clauses qui soient opérantes, efficaces pour les deux parties qui sont au contrat. Mais il y a aussi d'autres aspects sur lesquels les entreprises sont peut-être pas conscientes de l'importance, qui sont notamment tout ce qui est structuration contractuelle. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un marché où vous avez beaucoup de PME, la tendance à l'UGAP, c'est d'avoir plus de lots. Donc vous voyez que ça a une incidence directe sur votre mise en concurrence et sur la structure contractuelle même de l'offre. Il peut y avoir aussi une incidence sur la procédure elle-même. Par exemple, si vous avez des entreprises de l'économie sociale, vous allez faire un MAPA, une procédure adaptée, et pas forcément un appel d'offres, c'est-à-dire une procédure formalisée. Donc ça aussi, c'est important pour nous de se rendre compte qui peut répondre, et finalement, ça a une incidence sur la procédure. Il y avait aussi un autre aspect qui était intéressant, qui a été soulevé, qui est la question des labels. Moi, j'irai plus loin. Il y a une question, finalement, sur les candidatures et les conditions qu'on pose à la candidature. Vous voyez, par exemple, en ce moment, on est en train de réfléchir sur nos prochains appels d'offres en matière d'électricité, et on se pose la question de savoir comment éviter qu'on se retrouve dans la même situation qu'il y a quelques années avec Hydroption qui a fait faillite. Donc, il y a des questions en termes de structuration financière des entreprises, mais en même temps, vous voyez qu'il faut pas qu'on ferme trop la porte. Donc, il y a toujours un équilibre à trouver, et cet équilibre, on le trouve avec le dialogue, avec les entreprises. Et puis, bien entendu, il y a l'expression technique. Alors, tout dépend, là encore, du segment d'achat. Vous voyez, par exemple, dans des domaines comme la santé, l'expression technique est essentielle parce que si vous êtes trop précis dans votre expression technique, vous allez fermer la porte à des entreprises. Et donc là, on a un risque contentieux. Après, devant le juge du référé précontractuel, c'est bon pour personne parce que l'entreprise qui était attributaire, ben, voit son marché potentiellement être annulé et nous, on est obligé de relancer une procédure. Donc c'est pour ça que le sourcing, c'est aussi une manière de limiter le risque contentieux. Donc avec expression technique, mais aussi par rapport au risque des conflits d'intérêts. Parce que, comme le rappelait Sandrine, il y a la question pénale, mais même pendant la procédure, on peut avoir devant le juge du référé précontractuel le principe d'impartialité. C'est-à-dire lorsque j'ai un acheteur du pouvoir adjudicateur qui a été avant chez une des entreprises, faut qu'on le prenne en compte au moment, avant même qu'on débute la procédure. Donc ça, c'est très important. Et le troisième point que je voulais évoquer avec vous, c'était finalement comment est-ce qu'on fait sourcing. Alors, autrefois, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, on faisait des réunions, on se rencontrait. Bon, maintenant, il y a d'autres moyens. Donc, il y a d'abord l'e-sourcing, c'est-à-dire qu'on consulte des bases de données où on voit quelles sont les entreprises qui ont opéré ou qui ont pu être déjà sélectionnées préalablement. Il y a les visioconférences qui permettent de réunir beaucoup de personnes. Et puis, il y a aussi le procédé un peu plus classique de faire des demandes tout simplement d'informations de manière par mail ou tout ça. Mais il y a quelque chose qui est pas suffisamment utilisé, à mon avis, par les entreprises, qui est de solliciter pour un adjudicateur. Dans les instructions, enfin dans la doctrine interne de l'UGAP, moi, j'ai clairement indiqué qu'il fallait que les acheteurs, quand ils sont sollicités, ils répondent à la sollicitation des entreprises, parce que c'est très important. Et je pense que, notamment avec la réforme sur les données essentielles, il y a un nouveau décret qui est sorti récemment. Si vous combinez ça avec de l'intelligence artificielle, ça va donner encore plus d'informations aux entreprises pour détecter là où c'est la fin d'un marché et potentiellement candidater. Parce que bon, actuellement, l'UGAP, on publie notre procédure, enfin notre programmation d'appel d'offres sur plusieurs années. C'est pas toujours le cas pour tous les acheteurs, mais je pense qu'on va aller vers plus de transparence et donc plus d'accès à la commande publique.
Alain Bernard, les adhérents, les collègues qui sont les vôtres, sont souvent sur des entités de plus petite taille, avec des plus petits volets. Et comment l'enjeu se traduit-il différemment, ou on est à une autre échelle, mais exactement sur les mêmes lignes?
Le besoin. Je retiendrai ces trois mots trois fois, juste avant le chant du coq. C'est un peu le leitmotiv de l'Association des acheteurs publics depuis 1992 déjà. Sandrine Jarry l'a rappelé tout à l'heure. C'est vrai que le besoin devrait être et doit être, à notre sens, en première ligne. Pourquoi ? trois prescripteurs pour le besoin, pour faire émerger le besoin de l'acheteur public. Trois possibilités. La première, le collègue des services techniques de la direction des achats de la commune, du département ou de la région, ou l'établissement public de coopération intercommunale. Exemple, le DGST, directeur général des services techniques, qui vient voir son collègue directeur de la commande publique et qui lui dit, écoute, un petit exemple, j'ai des vitres cassées quasiment tous les soirs, j'aurais bien besoin d'un marché de mise en sécurité de mes bâtiments. Et ben là, par exemple, bien analyser le besoin, c'est proposer à son collègue, donc son prescripteur, donc celui qui a besoin de l'achat à venir, un marché, un accord cadre à bon de commande, de mise en sécurisation, avec par exemple de la fourniture et de la pose de vitreries et un marché avec plusieurs lots. Premier prescripteur. Deuxième prescripteur, j'irai crescendo. Deuxième prescripteur pour l'acheteur public, l'élu. L'élu qui sent une demande de ses habitants, ou alors l'élu qui a été élu sur la base d'un programme et qui va voir ses services et qui lui dit « bon ben voilà, je me suis engagé là-dessus, voici le projet de la municipalité, comment mettre en œuvre mes projets, une construction, une nouvelle crèche, l'acquisition par exemple de jeux issus du réemploi pour toutes mes crèches parce que je veux me lancer dans le mouvement ». Vous noterez au passage l'impulsion, la dynamique, le « là » qui est donné. Et là, l'acheteur, donc, face à l'élu, va faire des propositions, mettre en œuvre. Troisième prescripteur, l'usager, l'habitant. Et l'habitant, lui, il a un petit plus en quelque sorte, c'est quand son besoin est satisfait, il va en même temps le juger, ce besoin. Comment l'acheteur a procédé son achat? Comment l'acheteur a-t-il répondu à son achat? Est-ce que c'était trop? Pas assez? Inadapté? Oh, regardez, ils sont encore trompés dans ce que je voulais, ils vont devoir racheter le bien pour lequel on avait fait un cahier des charges, mais qui répondait pas du tout à notre demande, et l'acheteur public a eu soit, par exemple, une procédure infructueuse, ou alors s'est trompé dans le besoin. Je vous donne un exemple. Une collectivité crée une micro-crèche, 10 berceaux. Dans cette micro-crèche, il convient d'acheter un petit peu d'électroménager, mais pas de l'électroménager de monsieur et madame tout le monde, forcément, mais à un rythme quasiment 3-4 machines par jour. Là encore, si on se trompe dans la définition du besoin, on va acheter deux fois, trois fois peut-être, jusqu'à obtenir le besoin qui nous satisfait. Et là, c'est là où intervient, après avoir vu les trois prescripteurs, tout l'intérêt du sourçage, aujourd'hui, déjà depuis quelques années, mais de nouveaux permis, là où le Code de la commande publique a pour la première fois nommé l'acheteur public en 2019, souvenez-vous, avant, c'était le représentant de la collectivité ou tout autre mot, et bien là, le sourçage est important à tout niveau des collectivités pour... Eh bien, tout simplement, on va parler, encore une fois, simplement, ce qui se fait de mieux en la matière ou ce qui est adapté à notre besoin. Et c'est là où l'acheteur peut prendre son bâton de pèlerin. C'est la dynamique que l'on propose à l'Association des acheteurs publics, c'est de dire, acheteur, n'hésitez pas à aller voir les entreprises, quelles qu'elles soient, à procéder à un achat gagnant, vous l'avez dit, cela veut dire discuter, se documenter, s'informer, et pour les acheteurs peut-être un petit peu plus grand, entre guillemets, en termes de strates de collectivité, c'est faites-vous connaître auprès de votre tissu économique local. En même temps, les élus adoreront faire tourner le tissu local, bien évidemment, et pas que les élus, les acheteurs aussi, en faisant, par exemple, des rencontres avec les partenaires locaux, et en particulier les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de commerce et de l'artisanat, pour que, autour, pourquoi pas, d'un café ou d'un speed dating ou meeting, peu importe son nom, eh bien, les acheteurs rencontrent les opérateurs économiques et que l'on échange sur les besoins mutuels. Voilà un petit peu notre fer de lance à l'Association des acheteurs publics aujourd'hui pour développer et optimiser le sourçage. J'en terminerai sur ce point-là, c'est que s'il n'y a pas une dynamique interne dans la collectivité, une impulsion, notamment de nos élus, de l'administration aussi avec la direction générale, l'acheteur tout seul, s'il décrète de faire un sourçage auprès des entreprises, il n'aura pas beaucoup de succès. Donc, une bonne dynamique et une impulsion.
Moi, j'ai une petite question. Comment faites-vous pour que les entreprises viennent vous voir, et particulièrement les PME? Parce que, on en a déjà parlé, mais vous êtes un marchand de glace dans le désert, peut-être pour certains. Voilà.
Pardon, je me permets d'ajouter une question parce qu'elle est apparue sur le chat et ça vient avec. On nous demandait si les appels à sourcing sont-ils toujours publiquement publiés sur les plateformes d'achat ou bien est-ce plutôt pour les consultations restreintes?
Effectivement, je peux donner des éléments de réponse. L'enjeu, puisqu'on est en amont de la consultation, donc on n'est pas sur ce qu'on appelle les profils acheteurs, les plateformes, je ne vais pas les citer, il y en a une quarantaine en France, on est en amont. Donc comment effectivement avoir l'information quand je suis complètement nouvel arrivant ou comme entreprise, je souhaite faire le pari de la commande publique, mais j'ai pas encore de pratique. Olivier le disait pour l'UGAP. L'UGAP publie sa programmation sur son site internet et c'est une pratique qui se développe de plus en plus. Il y a également des acheteurs publics qui tout simplement convoquent ou en tout cas passent l'information aux entreprises de leur territoire et font une fois par an, c'est une très bonne pratique, une réunion rapide de présentation du programme. C'est quoi le programme? Alors, ça nécessite de voir plus loin que l'année. Or, les budgets sont à l'année. Donc, c'est un des enjeux des acheteurs d'aider tous les acteurs dont parlait Alain en interne à programmer bien sur plusieurs années. D'accord? Et donc, on donne à voir ce qui va se passer. A priori en consultation, mais justement le fait d'échanger, parfois ça fait que on s'y prend un peu autrement sur la consultation, mais ça c'est une autre vie sur, encore une fois, le profil acheteur, la plateforme, on est bien en amont. Au niveau de la direction des achats de l'État et des achats de l'État, on est généralement, puisque derrière il y a beaucoup d'entités acheteuses, sur des besoins assez massifiés et assez importants. Donc on a mis en place en fait une plateforme toute simple et qui est ouverte à tous les acheteurs publics depuis un an, c'est quasiment son anniversaire, là, c'était le 12 juillet l'année dernière. On a ouvert une plateforme qui s'appelle Approche, sans E à la fin, Approche, projet d'achat, et qui permet en fait de donner à voir justement le menu dans l'année ou dans les 4 prochaines années sur la programmation achat de, alors, tout type de service. Côté, on y voit en fait toute la programmation ministérielle à 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 4 ans. Et puis, les collectivités locales et les hôpitaux peuvent tout à fait publier gratuitement sur Approche leur projet d'achat. Alors, la règle du jeu, je répète, c'est un projet d'achat. Donc, peut-être qu'un projet d'achat, à un moment, j'allais dire, il va faire pchit. En tout cas, il va lui arriver quelque chose. Ça va être remodifié et il y aura une consultation peut-être plus tard, mais sous une autre forme. Mais on est vraiment dans l'objet qui va donner envie, ce que je vais donner à voir. Et c'est vraiment, alors, c'est ce qu'on appelle du sourcing inversé, puisque là, c'est pas je vais regarder ce que les entreprises peuvent m'offrir. C'est plutôt comme une vitrine. Et il est possible ainsi pour les entreprises, y compris les PME ou les nouveaux entrants, de regarder avec une recherche par site ou par mot-clé, la maintenance bâtimentaire en Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort? Vous faites ces recherches-là, donc sur Approche, projet d'achat, c'est gratuit. Si vous voulez aller plus loin comme entreprise, vous pouvez tout à fait vous inscrire avec votre SIRET. Et dans ces cas-là, vous pouvez demander sur un projet d'achat deux choses. Soit vous tapez à la porte du bureau de l'acheteur et vous lui dites « je voudrais rentrer en contact avec vous » et il vous ouvrira la porte ou pas, ou peut-être qu'il vous ouvrira la porte plus tard, parce qu'il aura vu plus tard que vous êtes intéressé. Et un autre acheteur, si vous avez accepté de rendre public votre manifestation d'intérêt ainsi, peut aussi vous voir, puisque vous vous êtes enregistré, c'est gratuit, vous voir comme ayant levé la main pour voir effectivement ce qui pourrait se passer en matière de maintenance bâtimentaire en Bourgogne-Franche-Comté. Je termine là-dessus. Deuxième élément d'échange dans cette plateforme, vous pouvez entre entreprises aussi lever la main et dire « moi je cherche un partenariat pour répondre à ce projet d'achat ou sa caractérisation ». Et là, il y a une fonctionnalité qui permet depuis quelques mois de se mettre en partenariat entre entreprises. Donc voilà. Ça nécessite la programmation, un peu de maturité achat, mais on peut aussi sur Approche publier un projet. C'est tout à fait possible côté acheteur public ou quand on est un gros acheteur comme par exemple la ville de Paris, dans quelques mois, carrément interfacer son système interne avec et là donner le flow de tous les projets, les donner à voir. C'est le cas pour les ministères, vous avez à peu près 6000 projets d'achat qui sont, et pas que à Paris, et qui sont sur la plateforme Approche.
Alors, c'est assez séduisant, mais comment est-ce que la PME du fin fond de la France sait, comment est-ce qu'elle vous connaît?
Je me permets de répondre du tac au tac. On a fait effectivement pas mal de communication, j'en refais aujourd'hui, notamment auprès du monde consulaire, mais pas que, auprès aussi des organisations comme le MEDEF. Après, c'est le bâton de pèlerin, c'est aussi à chaque acheteur d'évoquer approche, de s'y inscrire. Voilà, pour moi, c'est pas exclusif d'autres outils et tout le monde doit s'en emparer. C'est la même chose sur les plateformes de réponse aux appels d'offres. Comment est-ce qu'on les connaît? Ben, c'est aussi peut-être parce qu'à un moment, localement, il y a eu ce type de webinaire ou de rencontre. Moi, ça m'arrive assez souvent, ou mes équipes, de venir discuter c'est quoi la commande publique, comment on s'y prend. Là-dessus, c'est aussi, là, je le renvoie aussi à la direction des achats de l'État sur les achats ministériels et des établissements publics de l'État. C'est notre boulot aussi de faire connaître, effectivement, la commande publique. La DAJ le fait aussi très bien.
Alain Bénard, est-ce que vous avez, vous faites aussi la promotion de ce site à tous vos acheteurs?
On va y participer puisque bien évidemment on fait la promotion de tous les sites qui nous semblent bons pour l'achat public et surtout son côté simple et facile d'accès. Et je rappellerai aussi à une époque où assez souvent l'artificiel prend le pas d'inviter l'ensemble des opérateurs économiques, des entreprises à ne pas hésiter, comme ça a été évoqué, à réutiliser le téléphone et à appeler directement, hein, le bonheur est simple comme un coup de fil. La collectivité, alors on est d'accord, il y a une première démarche à faire, c'est d'identifier peut-être le nom, prénom de l'acheteur ou dans les petites communes. Il faut savoir que nos élus dans les petites communes sont souvent en première ligne dans l'achat public parce que les fonctionnaires territoriaux ne sont pas aussi servis, entre guillemets, que dans des collectivités plus importantes. Je rappelle que plus de 90% des collectivités, donc plus des 36 000 communes, font moins de 2 000 habitants. Et le premier intéressé par l'achat public, ça va être soit le maire en direct, soit l'adjoint au maire en charge des achats et qui va, comme on dit, mouiller la chemise sur le terrain pour satisfaire aux besoins de sa population ou de ses services. Et donc là encore, prendre contact, identifier l'acheteur dans la petite collectivité comme dans la moyenne collectivité, ça demande aussi de nouveau, je dis de nouveau parce qu'on avait un peu oublié, même si de plus en plus avec les courriels et téléphones portables, on a l'impression que la communication, c'est facile, mais on en oublie tout simplement les rapports humains. Et ce sourçage participe de nouveau avec ce rapport. Ça veut dire, quand je suis une toute petite entreprise ou une petite et moyenne entreprise, j'identifie ce que l'on appelait autrefois peut-être les prospects. De nouveau, je vais prospecter par rapport à mon domaine d'activité et je vais, ça a été dit, prendre mon bâton de pèlerin et aller sur mon territoire, identifier qui est l'acteur en termes d'établissement public de coopération intercommunale, donc identifier la communauté de communes ou la communauté d'agglo ou, plus grosse encore, la communauté urbaine, et identifier peut-être encore des syndicats intercommunaux qui existent encore. Si je suis spécialisé dans l'eau et l'assainissement, plus besoin dans peu de temps, voire même déjà, d'aller voir le maire, mais plutôt le syndicat intercommunal ou la communauté de communes qui est en charge de cette compétence. Voilà, c'est la démarche pour les entreprises, j'en terminerai par là, de se renseigner quand même. Et là encore, ma foi, nous avons de nos jours Internet ou de prendre son téléphone pour identifier qui est compétent et, disons-le, d'aller en démarchage direct dans un premier temps.
Je vais me permettre juste de faire un petit commentaire. Tout d'abord, je vous remercie parce que je suis un fervent défenseur de la relation humaine. Internet, les visios, tout ça, c'est très bien, mais rien ne vaut un bon rendez-vous en physique. Ça, c'est le premier point. Le second point, je pense, peut-être pour répondre aussi un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ça doit marcher dans les deux sens. Quand on est responsable d'une PME, dans la Creuse ou autre, on doit aussi, pour faire prospérer son entreprise, aller à l'encontre des agents du secteur public. Et c'est vrai qu'il y a quand même tout un tas de choses qui sont mises en place pour faciliter ces rencontres. Dans mon métier, je travaille avec beaucoup de partenaires, petits, moyens ou gros, particulièrement des petits, localement, dans nos régions. Et ces gens-là ont pris l'habitude maintenant d'aller rencontrer les collectivités, etc. C'est pour ça aussi que dans notre business, on verticalise aussi notre approche. On va pas avoir la même approche avec les grands ministères ou une collectivité territoriale ou les hôpitaux, etc. Donc on a verticalisé pour s'assurer aussi de créer du lien localement et surtout d'avoir des ressources partout partout en région. Mais je vous rejoins, enfin deux commentaires. Un, renforçons le relationnel humain, pour moi c'est extrêmement important. Et deuxièmement, ça marche dans les deux sens. Je trouve que l'État fait énormément d'efforts. Vous parliez d'approche, c'en est un, mais il y en a plein d'autres. Et les TPE, les PME régionales doivent elles aussi bâtir leur plan pour adresser le secteur public. Alors ça se fait pas en un jour, c'est sûr, mais
dire un mot, s'il vous plaît. Vous avez très justement tout à l'heure souligné le risque pénal, en fait. Hein, c'est-à-dire, mais c'est vraiment important pour les entreprises de ne pas s'exposer au moindre risque, notamment d'informations privilégiées. Du fait du sourcing, on aurait, par hypothèse, accès à des informations que d'autres n'auraient pas. Là, je suis extrêmement rassuré, parce que j'ai trouvé le niveau de maître d'ouvrage, de professionnalisme assez élevé. Il y a des pratiques qui sont développées. On en parlait tout à l'heure, les comptes rendus. Quand il y a des entretiens individuels, il y a un compte rendu. Alors, je vais ajouter une dimension, attention. Nous voulons bien expliquer des choses dans des réunions, mais quand il y a une diffusion de ce compte-rendu, vous voyez, en annexe à un RFP ou un DCE, il ne faut pas qu'il y ait des informations confidentielles. C'est un point important, parce que s'il y a une tendance à se restreindre, si on pense que les informations qu'on va donner vont être ensuite... Et moi, j'insiste beaucoup sur ce que vous avez dit. Le sourcing, c'est l'aide à la définition des besoins. Et attention sur un point, matériellement, je vois les choses comme ça, c'est-à-dire que le déroulement du sourcing et le démarrage de la consultation, vous voyez, procédure, il doit y avoir un décalage, il doit y avoir un laps de temps, un sas, pour que jamais on ne puisse considérer le sourcing comme étant directement la préparation du DCE, du style, pardon, je suis caricatural, ben, j'ai une entreprise qui m'a proposé un CCTP, ben, je suis bien content d'avoir fait le sourcing, je prends le CCTP, je mets dans le dossier. Évidemment, ça, c'est pas possible, ça ne se voit pas. Mais je veux insister sur le fait qu'il faut fondamentalement distinguer la consultation, parfois négociée d'ailleurs, de cette phase de sourcing et laisser un délai entre les deux. J'observe que le risque, finalement, d'information privilégiée qui est un risque pour les entreprises, du coup, parce qu'elles pourraient être exclues, c'est relativement bien maîtrisé, mais j'attire l'attention sur le sujet des offres confidentielles. Moi, je dirais que la définition du sourcing est vraiment, c'est de l'acheteur vers le marché. Enfin, je dis pas attention, je le note parce que rigoureusement, c'est ce qui est écrit. Parfois, nous-mêmes, là, aujourd'hui, on parle de la démarche des entreprises vers les acheteurs. Et ça, c'est pas forcément du sourcing. Et bon, à un moment, il existait un concept qui n'a pas prospéré, celui de l'offre spontanée, etc. Mais je pense qu'on a besoin, nous aussi, aujourd'hui, nous, les entreprises, qui aient des messages peut-être sur les possibilités dans l'autre sens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est est-ce que finalement, il n'existe que le sourcing, donc les maîtres d'ouvrage nous contactent, ou est-ce que nous, on peut aussi avoir un moment des temps ou des possibilités spontanément de faire une offre? Et vous l'avez tout à l'heure expliqué, concernant l'UGAP, on voit très bien que vous organisez une veille commerciale, donc il y a des rencontres. J'ai voulu aussi dire, et je termine, parce que moi, je suis dans l'ingénierie. L'ingénierie, donc, c'est les études liées aux projets de travaux, en fait. Et j'observe, c'est un changement de mentalité, que le sourcing, c'est une prestation que demandent maintenant les maîtres d'ouvrage. Soit ils considèrent que c'est normal que le maître d'œuvre fasse ce sourcing, ce qu'il a toujours fait. Le maître d'œuvre, je ne vais pas faire sa promotion ici, mais il est censé quand même savoir quel est le plan de charge des entreprises, parce que le plan de charge des entreprises influe sur le prix, je parle des travaux. Hein. Si les entreprises sont très occupées, les prix sont plus élevés, vous voyez des éléments. Donc, traditionnellement, mais le changement fondamental, le code est arrivé, et là, il a officialisé le sourcing, il l'a structuré, il en a donné une définition très précise. Donc, le sourcing des travaux, je vais dire, hein, des travaux, c'est fait partie maintenant des cahiers des charges des maîtres d'ouvrage, c'est une prestation en tant que telle, c'est pour montrer l'utilité qu'il y a d'avoir introduit cette pratique dans le code de la commande publique et combien les maîtres d'ouvrage y sont attachés. Merci.
Pour vous répondre sur plusieurs points, je partage totalement l'idée qu'il faut qu'il y ait un temps un peu de décantation entre la fin du sourcing et le lancement de la procédure, ça me paraît très important. Et je vais vous donner une illustration contentieuse, parce qu'on a eu un contentieux où une entreprise s'est prévalue justement que le sourcing s'était pas bien déroulé. Et justement, parce qu'on a été en mesure de démontrer qu'il y avait ce temps entre l'expression technique et le sourcing, parce qu'on a démontré qu'il y avait eu des échanges qui étaient équilibrés entre chaque entreprise, le juge du référé précontractuel n'a pas considéré que moyen était fondé pour annuler la procédure. Donc tout ceci est extrêmement important. Là encore, je précise, à la fois pour un adjudicateur, parce que quand vous faites annuler une procédure, vous n'avez pour 6 mois à la reprendre, et pour l'entreprise, parce qu'elle pensait avoir un marché, et puis d'un coup, elle n'a plus rien du tout. Sur la notion d'information privilégiée, il y a plusieurs points en fait. Il y a la question du secret des affaires. Donc, si jamais il y a un nouveau procédé, vous pouvez toujours faire signer des accords de non-divulgation à vos acheteurs. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ces accords entrent en divergence avec tout ce qui est documents administratifs et la communication des documents administratifs, puisque vous voyez que ça, c'est un point aussi important. Lorsque vous avez une attribution de marché, après une entreprise qui n'a pas été retenue, elle peut demander communication de l'ensemble des documents de la procédure sous réserve du secret des affaires. Donc là, il faut bien... Alors ça, on voit souvent ça dans les nouvelles, les PME innovantes. Ils sont un peu réticents à exposer des nouveaux trucs, des nouveaux processus. Donc, ils nous demandent de signer ces accords. Alors, moi, je dis attention, il n'y a pas de problème pour signer un accord, mais il faut que on soit d'équerre avec l'état du droit. Et bon, sinon, dans la divulgation des documents administratifs, il y aura cette réserve donc du secret des affaires qui est reconnue par un CADA. Ensuite, sur la question du droit pénal, alors effectivement, c'est important parce qu'il y a des gens qui peuvent se retrouver en prison, mais avant le droit pénal, on a quand même tout ce qui est frais précontractuels et qui peut aussi aboutir à ce qu'on ait des mauvaises surprises. Donc, il faut que là aussi, il y ait une prise de conscience des entreprises de ce point de vue-là. Voilà, c'est tout ce que je... Ah, et juste un dernier point sur le plan de charge. Alors, c'est vrai pour les travaux, mais c'est aussi vrai pour d'autres secteurs industriels et aussi notamment quand il y a des changements de normes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment signaler, que les entreprises signalent dans les sourcings, parce que ça influe sur le calendrier des appels d'offres. Je vous donne un exemple, je crois que c'est dans les bus ou quelque chose comme ça, il y a un changement de normes, donc du coup, notre amont industriel nous a dit on peut pas répondre, donc on a décalé l'appel d'offres.
Alain, vous vouliez réagir, et j'anticipe en vous posant une question, vous pourrez intégrer, et puis peut-être vous autres peuvent aussi... je pense que c'est une question pour tous, réagir. On nous demandait sur le chat si le sourcing est un bon levier pour développer les relations avec les parties prenantes dans le cadre d'une démarche RSE. Donc, je voulais élargir sur la prise en compte de la RSE, parce que c'est un sujet qui nous occupe beaucoup au comité commande publique. Donc, on peut voir ce point-là. Et peut-être aussi, on avait dans nos échanges en préparant le webinaire, pensé aussi, on avait juste évoqué la notion de localisme, c'est pas le bon terme, mais de mise en valeur de l'offre locale aussi. Donc voilà, si on peut intégrer cet élément à la réponse.
Ce que je voulais ajouter, c'est pour les acheteurs publics qui nous écoutent, et pour les entreprises aussi, on peut faire le pendant, c'est au niveau personnel et sécurisation des procédures, d'insister sur l'identification au sein de l'entreprise ou de l'acheteur public de qui fait quoi, tout simplement. Je précise. Pour les acheteurs publics, par exemple, bien identifier dans la fiche de poste que tel ou tel agent est en mesure ou a pour mission de procéder au sourçage, participer à la négociation, représenter le maire ou l'élu dans ces moments-là. Bref, bien identifier les missions et les responsabilités. Et aussi, y compris du côté des entreprises, pour que lors d'une rencontre de négociation ou lors d'un moment de sourçage, bien évidemment bien différent, qu'il n'y ait pas à la fin de la réunion quelque chose du type bah écoutez, je vais en parler à l'élu et je vous dis, ou du côté de l'entreprise, bah je vais en parler à mon patron et je vous dis. Et ça, la bonne identification des missions de chacun participe à la sécurisation des procédures, à la séparation entre le moment du sourçage et ou de la négociation quand on est en procédure. Ça a été rappelé de bien permettre aussi le laps de temps nécessaire entre les deux pour qu'il n'y ait pas de confrontation. Et tous ces points-là, lorsqu'ils sont bien déterminés en amont, soit par une charte en interne, soit par le règlement intérieur de la collectivité ou de l'entreprise, ça permet en plus de bien se rappeler les règles. Et encore une fois, comme les acheteurs bougent aussi, eh bien, comme il y a toujours de nouveaux acheteurs ou dans une entreprise de nouveaux agents, eh bien, de connaître les règles et de bien les identifier. Cela permettra aussi, on l'a évoqué, eh bien de participer sur la responsabilité sociale des entreprises, de discuter sur le sujet. Et là encore, si l'acheteur sait qu'il peut évoquer tous les sujets dans son domaine d'action, eh bien il pourra aisément en prendre parti. Parfois, on peut trouver dans certaines collectivités, en fonction de la taille de celle-ci, peut-être une direction des affaires juridiques, une direction de la commande publique. Si les missions de chacune des deux directions ne sont pas bien identifiées, il peut y avoir, parfois deux têtes, et on sait très bien que dans une mission ou dans un projet, quand il y a deux têtes, c'est le meilleur moyen pour ne pas avancer ou pour être freiné ou alors de de prendre parfois le mauvais chemin. Et le troisième point, mais comme j'ai oublié la deuxième partie de votre question, vous allez pouvoir me le rappeler éventuellement. Voilà, sur le localisme. C'est entendu, bien évidemment, le sujet n'est pas de savoir comment favoriser telle ou telle entreprise, puisque c'est exclu, bien évidemment. On se le rappelle, mais c'est de bon ton de se le rappeler, puisque encore une fois, tous les jours, il y a de nouveaux acheteurs qui découvrent le code de la commande publique, peut-être des étudiants qui, après le succès des examens de juin ou peut-être septembre pour d'autres, vont découvrir les éléments. Et là, encore une fois, il est important de rappeler qu'il y a plusieurs cordes à l'arc de l'acheteur pour satisfaire les besoins dans son territoire, pour répondre aussi aux entreprises du bassin d'emploi ou locales, ce n'est pas un gros mot encore une fois, tout en respectant tout simplement les procédures. Et là encore, j'en terminerai par là, c'est par la formation, la bonne formation de l'acheteur, mais aussi des élus locaux et parfois même des entreprises, sur là jusqu'où nous pouvons aller, quel est le fil rouge à ne pas dépasser pour avoir un achat gagnant-gagnant et un achat local. On peut utiliser d'autres termes, par les circuits courts ou autres, mais là encore une fois, on en reviendra et j'en terminerai par là, la bonne définition du besoin va nous permettre de répondre à ceci et peut-être de répondre aussi aux besoins du territoire.
Oui, peut-être un complément sur la partie effectivement considération environnementale ou sociale. Quand on sort du bois, je reviens avec cette expression, avec son besoin. En fonction du segment d'achat, en fait, l'acheteur, il a déjà une petite idée derrière la tête en matière de considération environnementale ou sociale qu'il va pouvoir inclure dans son projet d'achat. En tout cas, dans le besoin, ça a été dit par le collègue, notamment par exemple sur les questions de réemploi. Il est très clair que sur certains segments d'achat, cette question du réemploi ou du cycle de vie du produit, elle est très 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 prégnante. Alors sur les travaux, ça va être vrai avec les déchets depuis de longue date, hein, par exemple. Donc, en fait, je pense que maintenant, ça concerne quasiment tous les segments, ces questions. Et justement, peut-être que l'acheteur, à ce moment-là, il a quelques idées, mais dans la confrontation avec les milieux économiques, il va pouvoir se faire une idée, alors on l'a dit, du montage contractuel, allotissement, par exemple, ou type de procédure, mais également, est-ce que, alors là, c'est de la technique d'achat public, dans mes considérations, j'ai plutôt activé un critère de choix, ou plutôt une clause ou une condition d'exécution du marché. Voilà, ça c'est vraiment du montage et de l'ingénierie contractuelle. En testant la question, parmi les questions, on l'a pas forcément dit, mais en fait on fait des questionnaires de sourcing, hein, soit que l'on adresse, soit que l'on adresse pour que ce soit le support de l'entretien. Et donc un certain nombre de questions, c'est assez classique, sont sur ces considérations environnementales et sociales. La même chose sur la partie innovation. C'est vraiment le moment de capter en fait ce qui peut se faire. Alors et ou de confirmer ce qu'on a vu avec la veille commerciale. Et n'oubliez pas ce qu'a dit Alain, c'est que en fait vous avez plusieurs acteurs en face. Nous on parle plutôt acheteur public ce matin, mais en fait l'acheteur il vient avec son prescripteur, ses collègues services techniques, services informatiques, services bâtiments. Et puis il peut y avoir aussi des décideurs achats. Il peut y avoir, alors nous sommes des acheteurs au niveau ministériel assez structurés. On a aussi des experts d'ingénierie achat responsable, par exemple, environnemental ou social. Donc, on peut aller assez loin. Par exemple, si on travaille sur un segment d'achat textile, on a des experts qui peuvent aller assez loin, en fait, en matière de considération de ce type. Et donc, au moment du questionnaire ou de l'échange sur la base du questionnaire, justement, l'entreprise, elle doit pouvoir dire « Non, mais là, si vous mettez tel élément, ça exclut 90% aujourd'hui des répondants potentiels, par exemple. Ou alors, sachez qu'en termes de structure, nous, de prix, si vous mettez telle considération, attendez-vous à avoir des prix qui vont être composés de telle façon, enfin, après, dans la limite de ce que vous pouvez nous dévoiler, mais en tout cas, voilà nos contraintes et ce qu'on va refléter dans les prix. Et je voulais peut-être terminer par la question de la professionnalisation. C'est un peu tarte à la crème, mais je le redis, nous formons nos acheteurs. Et donc, aujourd'hui, un acheteur, dans ses standards de bien exercer son métier, c'est pas comme dit le code, c'est qu'il peut faire du sourcing, c'est qu'il doit justifier s'il ne fait pas de sourcing. Il peut-être sur un achat spot, un petit achat, il peut y avoir un certain nombre de considérations qui font que cette phase-là serait zappée. Mais aujourd'hui, ça fait partie des points sur lesquels nos acheteurs sont formés particulièrement formés, de manière, encore une fois, à exercer leur métier sans risque, et puis sortir peut-être d'une timidité qu'on a pu connaître, j'espère qu'on n'en est plus là, du côté des acheteurs publics. Moi, je parle aux entreprises quand on commence à discuter du réglage du contrat. Oui, donc avec l'attributaire. Donc non, c'est plus ça. Ça, c'est les marchés. Ce sont les achats publics de grand-papa. On est d'accord. Nous sommes d'accord. Donc ne pas être timide et on recrute aussi, autant vous le dire, sur une fonction qui est assez tendue côté acheteur public. Hein. On recrute aussi beaucoup de personnes qui sont des anciens acheteurs du secteur privé. Alors, on les acculture à nos questions un peu particulières, mais ils peuvent aussi, parce qu'ils étaient dans un écosystème aussi, dans une entreprise sur la fonction achat, hein. C'est compliqué de recruter quelqu'un qui était sur la fonction commerciale, c'est même interdit en fait. En tout cas, il y a un laps de temps pendant lequel les personnes ne peuvent pas candidater. Mais voilà, on a aussi des personnes qui décryptent, qui connaissent bien, hein, qui connaissent bien les milieux des entreprises, et on aurait tort de se priver de ces talents-là aussi, nous, pour pouvoir bien comprendre en fait comment mener à bien les échanges. On en parlait en aparté pour préparer ce webinaire. Tout ça, c'est vraiment une question de communication et adapter sa communication à ses interlocuteurs pour bien se comprendre et bien comprendre le besoin. J'y reviens. Le besoin.
Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas trop abordé et qui est pourtant important, que d'ailleurs les statistiques ne savent pas compter dans les milieux de l'État et autres comme l'OECP, où on ne sait pas compter tout ça, c'est la sous-traitance. La sous-traitance est une grosse partie des achats, mais ils se font par l'intermédiaire d'une entreprise générale, et donc les PME, on ne les voit pas. Et je pense qu'il ne faut pas oublier tout ce qui est sous-traitant, qui représente des sommes considérables, que personne ne compte parce que c'est pas forcément déclaré d'une façon très claire ou compté d'une façon très claire ou que ce soit. Et quand j'entends le système approche, ça pourrait être une façon de voir ce qu'il en est, où sont ces sous-traitants et de les faire sortir du bois, pour reprendre votre expression. Comment entre guillemets approchez-vous les sous-traitants qui existent, qui sont des PME? Et qui n'ont pas forcément accès à tout cela, puisqu'ils ont quelqu'un qui les camoufle.
Je me permets une question complémentaire, parce qu'elle apparaissait sur le chat, et je pense qu'elle va un peu élargir celle de Gilles. C'est sur la partie innovation, mais je pense qu'on peut la prendre plus largement, c'est-à-dire à partir du moment où vous êtes dans la construction de votre besoin, par définition, vous ne savez pas précisément qui est susceptible d'y répondre. Et donc, comment se fait cette jonction? On avait commencé à donner des éléments tout à l'heure de comment moi, en tant qu'entreprise, je peux aller identifier quels sont les possibles acheteurs. Mais peut-être vous, comment vous le mettez en place? La question précise, c'était comment faire du sourcing sur des besoins innovants quand on ne sait pas quelles entreprises seraient susceptibles d'y répondre. Donc, on voit cette difficulté à faire le lien. Donc, je vous laisse combiner les deux.
Oui, je vais répondre. Alors, d'abord sur la sous-traitance. Alors, à l'UGAP, on a mis en place un programme pour justement identifier de manière plus précise la sous-traitance. Parce que c'est vrai que finalement, pour une PME, c'est peut-être plus simple de commencer à traiter les marchés publics en étant sous-traitant et de s'acculturer finalement aux contraintes du public par ce biais-là. Mais il ne faut pas que ça devienne non plus un plafond de verre. Donc, on a un suivi très précis sur le droit au paiement direct, puisque la loi de 75 a permis aux sous-traitants d'être payés directement par l'acheteur public final. Et ça nous permet, au travers de nos différentes bases de données, d'avoir une vision beaucoup plus précise et claire des différents sous-traitants. Donc il y a ce biais-là qui permet finalement d'avoir une vision de la sous-traitance. Alors c'est vrai qu'habituellement on pense plutôt aux travaux, mais il y a beaucoup de sous-traitants sur les prestations intellectuelles. C'est vraiment ça, c'est assez étonnant, on s'en est rendu compte assez récemment, mais c'est un phénomène assez fort. Sur la question de finalement du sourcing sur des besoins innovants, je pense qu'on peut traiter le sujet que avec une veille commerciale qui soit permanente. Je vous donne un exemple simple, c'est-à-dire qu'avant, quand on faisait un diagnostic thermique, on avait a priori des équipes qui se déplaçaient avec du matériel. Maintenant, on pouvait faire du diagnostic thermique avec des drones qui vont balayer le bâtiment en question. Et ben, ça, c'est en cherchant en permanence les évolutions des nouvelles technologies que vous pouvez avoir l'idée d'aller sourcer différents types d'entreprises auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. Mais pour le coup, ça, c'est pas du sourcing, mais c'est de la veille commerciale, à mon avis, qu'il faut en permanence avoir pour suivre un secteur particulier.
Peut-être sur la question de la rencontre avec l'innovation qu'on ne connaît pas encore, comment on fait ? Moi, j'essaye de promouvoir auprès de mes collègues acheteurs de l'État une démarche qui prend du temps, mais qui est assez efficace, qui est ce qu'on appelle l'appel à compétences ou l'appel à manifestation d'intérêt. Il s'agit en fait de rendre public un besoin, mais vraiment pas du tout... dans l'idée de se dire que je suis dans le cycle de l'achat public, que je vais avoir une consultation ensuite. C'est juste aujourd'hui, voilà mon besoin. Je prends un exemple, sortie de crise Covid-19, qu'est-ce qu'on fait des cantines collectives ? Ça a été un enjeu, ça l'est toujours aussi dans les entreprises, mais dans les administrations aussi. Voilà, télétravail, un secteur qui a quand même été très bousculé hein, par la crise. Nous, on avait eu plusieurs en fait acheteurs, puisqu'on est un vecteur de mutualisation, la direction des achats de l'État, plusieurs établissements publics hein, qui nous avaient approchés en disant mais comment on peut faire pour à la fois assurer un service de restauration et en même temps quand même coller aussi à ce qui peut se faire aujourd'hui. Et donc on avait à plusieurs établissements publics, on les avait aidés à écrire un appel à manifestation d'intérêt. Ça sera une fonctionnalité dans Approche aussi prochainement. Parfois, c'est publié aussi, il y a un endroit dans les plateformes de consultation où vous pouvez avoir ce genre d'éléments, ou sur les sites internet ou les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment très, très, très en amont. Je prends le temps et je m'exprime sur mon besoin en étant, j'allais dire, quasiment à l'aveugle sur ce qui peut se faire. Je sens que... dans des entreprises, sûrement des gens y réfléchissent parce que c'est un gros mouvement, soit c'est une réaction à une crise, soit c'est un gros mouvement dans la société. Hein. Donc ça complète aussi ce qui se fait au niveau de la veille commerciale. Et moi je trouve que c'est assez stimulant pour un acheteur public parce qu'on est démuni quand on a un besoin sur lequel on sent que il n'y a pas de réponse structurée à ce stade. Donc au moins je prends la parole, je rends public ce besoin et je regarde ce qui peut venir à moi. Et ensuite, plus tard, je vais en faire un projet d'achat sur quelque chose d'un peu plus ciblé.
Nous sommes à la dernière minute, alors c'est la toute dernière minute du temps que nous nous étions appartis, mais peut-être on a. Alors, les questions, je vous les ai posées au fur et à mesure, et pour les autres, elles ont trouvé leurs réponses spontanément dans le débat. Et j'allais inviter un dernier tour de table, mais Alain, vous pouvez commencer, c'est
très bien. Très court pour la sous-traitance. L'association des acheteurs publics propose à ses membres et donc aux acheteurs de, en début de construction par exemple, de faire comme en début septembre on a un forum des associations, et bien en début de construction avec la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, le forum des sous-traitants, une grande réunion qui pourrait se terminer par un moment convivial par exemple, où les sous-traitants sont invités à se faire connaître. Alors ceux qui ne sont pas encore déclarés, on demande aussi aux titulaires, on propose aux titulaires d'anticiper ou de faire des propositions et surtout de prendre contact avec la collectivité pour, dès qu'un sous-traitant apparaîtra, eh bien là encore une fois, de faciliter son inclusion, puisque je rappelle que pour les collectivités territoriales, la sous-traitance intéresse la maîtrise d'ouvrage, mais aussi le trésorier. La trésorerie, et qui est un partenaire indispensable pour tous les marchés publics, pour que tout se passe bien et parfois même le contrôle de l'égalité, les services préfectoraux. Donc c'est vraiment, en quelque sorte, un petit ménage à trois quand on signe un marché public. C'est qu'il n'y a pas que la collectivité, il y a aussi le trésorier et nos collègues des préfectures et des sous-préfectures pour être, encore une fois, et ça sera ma conclusion, gagnant-gagnant pour la bonne exécution d'un marché.
Et alors, là encore, n'oubliez pas que le sous-traitant doit pouvoir s'exonérer des mêmes montants de garantie ou des mêmes niveaux de garantie que l'entreprise générale et ne pas se faire imposer par l'entreprise générale les mêmes niveaux de garantie. Et ça peut être aussi dans le texte du marché qu'il y a quelque chose à écrire, parce que ça élimine énormément de sous-traitants. Et s'ils en ont pris conscience, parce qu'il peut aussi arriver que les PME n'ont absolument pas conscience que si on leur demande une assurance de 10 millions d'euros, parce que c'est celle de l'entreprise générale, eux, sur leur marché, ils auraient besoin que de 500 000 euros. Enfin bon, voilà, c'est un vrai grand sujet pour l'accès des PME.
Vous voulez nos dernières un petit dernier tour de table.
Oui, en quelques mots, d'abord, cette discussion est extrêmement intéressante et merci à vous. Ça fait pas si longtemps que ça que je suis sur le secteur public, pour tout vous dire. Je faisais plus du privé avant, quelques années quand même. Mais effectivement, moi, je vois une vraie belle accélération de la discussion, des échanges au travers justement du sourcing. Et les sourcings auxquels j'ai pu participer ou je participe sont extrêmement structurés. Et je trouve que c'est extrêmement bénéfique. Évidemment, dans nos régions, on doit probablement accélérer sur cette partie sourcing, et je pense notamment aux collectivités territoriales. Je pense qu'il faut qu'elles embrassent le projet du sourcing. Mais en tout cas, pour moi, on est exactement là où vous avez pu le mentionner tout à l'heure, avec la formation de vos acheteurs, etc. La recherche d'excellence, j'ai envie de dire, en fin de compte, de la fonction achat. Et je trouve que l'innovation est aussi traitée dans ce sourcing. En tout cas, moi, dans mon métier, ça permet aussi de donner de la visibilité sur des produits qui seraient à même de sortir d'ici 6 mois, etc. Et donc de peut-être positionner l'appel d'offres de façon différente. Mais en tout cas, je pense qu'on est on est sur la bonne voie et que les choses avancent de façon extrêmement cadrée.
Je peux très brièvement, donc, pour aller dans le même sens. Oui, c'est vrai, le sourcing, c'est structuré. Moi, j'observe, par exemple, qu'il y a des grilles d'entretien lorsque ce sont des entretiens individuels. C'est très bien réfléchi. Les questions sont très pertinentes. Il y a une question sur l'innovation. Je voulais aussi dire un mot sur le mot qu'on n'a pas employé, le mot variante. Parfois, ça peut être, je ferme la parenthèse. C'est aussi un sujet de débat. Donc, il y a un haut niveau. Je pense qu'il y a des réussites véritables. Après, je pense qu'il faut aussi, selon la taille des projets, proposer d'autres outils. Mais moi, je voulais aussi faire un appel, entre guillemets, sur le fait qu'on peut aussi, dans des entretiens collectifs, peut-être faire participer les fédérations professionnelles locales ou du bâtiment, je ne sais pas, je dirais du bâtiment ou d'autres, parce que les lieux, les murs, quand les réunions ont lieu dans des fédérations professionnelles, elles permettent de rencontrer les entreprises d'un secteur déterminé, et c'est quelque chose qui est aussi de nature à favoriser le dialogue. Donc, c'est un point sur lequel je voulais dire un mot, voilà. Donc, sinon, c'est très bien. On a une les sourcings sont très bien structurés aujourd'hui, elles sont d'un haut niveau, et c'est donc très satisfaisant pour les entreprises.
Oui, merci de cette invitation. En tout cas, on continuerait bien une partie de la matinée, en tout cas, sur ces échanges. Le sourcing, ça permet de mieux se comprendre, en fait, de part et d'autre. Mieux se comprendre, je l'ai dit, sur le besoin et quand même sur la structuration de l'offre. La création de valeur, elle se fait où dans les chaînes aussi, hein. Ça, il faut expliquer ça aux acheteurs, précisément. Ça peut être sur l'informatique, les questions d'intégrateurs, par exemple. Voilà, c'est quoi, finalement, pour arriver au produit final ou au service final, qui est-ce qui a eu comme mise en route derrière des différents acteurs. Donc, mieux comprendre les contraintes, parce qu'on ne l'a pas beaucoup dit, mais il y a aussi la contrainte financière pour l'acheteur. Sur des très, très, très gros projets, on peut aussi embarquer la direction des finances. Moi, je trouve que c'est une bonne pratique sur les très gros projets, hein, parce que ensuite, derrière, il va y avoir de l'exécution de contrats qui est un vrai délice au niveau financier et comptable. Et donc, là, il faut embarquer aussi les directions financières. Mieux se comprendre de part et d'autre. Un dernier mot, du côté des services de l'État, il ne faut pas oublier en région les plateformes régionales des achats, qui sont en fait des mini-directions des achats de l'État localement. Il y en a 13 dans chaque région. Et un de leurs rôles, elles portent des achats elles-mêmes, interministériels, mais un de leurs rôles, c'est de faire ce go-between en fait avec les milieux économiques. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à contacter mes collègues en préfecture de région, plateforme régionale des achats, qui seront aussi le bon endroit pour vous dire, au niveau des compétences, parce que c'est parfois un peu compliqué, qui va s'occuper de quoi, et donc par rapport aux offres possibles que les entreprises portent, quels seraient les potentiels acheteurs, à quel endroit, côté État, côté hôpital, etc. Merci.
Alors, je partage, je trouve que c'est un échange qui a été très intéressant. On vient de publier un guide de l'UGAP sur les clauses contractuelles. Ça peut être intéressant pour les entreprises de consulter, ne serait-ce que pour donner des idées éventuellement aux acheteurs publics sur ce qui peut protéger leur intérêt commun. Sinon, en tout cas, merci encore au MEDEF d'avoir organisé ce bel événement.
Tout petit complément pour l'association des acheteurs publics. En plus du sourçage, nous promotionnons le parangonnage. Ah oui, tout ce qui se termine en âge, on adore. Ça veut dire se regarder, certes se regarder, mais aller voir ce que fait le voisin. Voilà, avec cette petite maxime, et ça sera ma conclusion. Quand on s'analyse, on se fait peur, mais quand on se compare, on se rassure. Donc c'est valable tant au niveau des entreprises que des acheteurs publics. Ça veut dire, regardons ce que fait l'autre, pour en tirer parfois le meilleur ou d'éviter les écueils. Et tout ça dans une vision, bien évidemment, d'un achat gagnant et d'une bonne satisfaction des besoins. Et à ce moment-là, après, toutes les portes pourront nous être ouvertes et doser la commande publique. Merci à vous pour cette petite matinale fort sympathique.
Ok, mais écoutez, je vous remercie tous d'avoir bien voulu participer. Je remercie aussi, bien sûr, le comité de la commande publique et tous ses membres qui ont œuvré pour préparer cette réunion. Je vous remercie, je connais pas votre nom, mais pour la technique.
Merci à Gauthier Bernard.
François, merci aussi. Et en tout cas, il y a une chose que j'ai bien notée, parce que ça a été répété pas mal de fois par Alain Bénard, et je pense qu'il a raison, voilà. Il faut pas dire sourcing, comme c'est écrit partout, mais il faut dire sourçage. Donc, il nous a bien expliqué qu'il fallait parler français. Et donc, nous ferons un effort pour parler français. Et merci en tout cas de votre participation. Voilà. Et merci aussi à tous ceux qui ont bien voulu suivre cet événement et à vos questions dont François nous a fait part. Voilà.
Donc, merci à ceux qui ont bien voulu nous suivre aujourd'hui.
C'était un podcast de l'Académie. Nous tenons à remercier les collaborateurs du MEDEF qui ont œuvré à sa réalisation, ainsi que l'ensemble des intervenants. Retrouvez de nombreux autres enregistrements sur le site l'academiemedef.fr. Merci pour votre écoute et votre fidélité. À bientôt.